Sciences Po Aix et les étudiants des masters métiers de l'information, politique culturelle et Coris vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette quatrième saison, l'équipe a décidé de se plonger dans l'affaire Naël. Nous avons interrogé la manière dont le numérique a façonné les conséquences politiques et publiques du scandale.
Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans cet épisode bonus. Installez-vous confortablement et préparez-vous à sortir des sentiers battus.
Vous vous êtes certainement habitué à la trame générale de cette saison. Et coup de tonnerre, nous voici.
Si vous êtes du genre indécis, que l'actualité sous sa forme classique vous angoisse et que votre truc c'est de rester sous un plaid au chaud pour regarder un film, cet épisode est fait pour vous.
Si vous souhaitez écouter une approche de l'affaire Naël différente, basée sur l'image comme sur les réseaux sociaux, mais cette fois sur une image dont la construction est assumée, vous êtes au bon endroit.
Ici, pas d'intervenant professionnel, pas de rubrique conseil, juste vous et nous, et on vous promet que ça va vous plaire. On vous propose de parler cinéma, de parler films de banlieue. Alors, vous vous demandez sûrement comment partir d'une affaire telle que celle de Naël pour en arriver à notre questionnement. C'est tout à votre honneur et on va tout vous expliquer.
Nous avons remarqué que la diffusion des films de banlieue sur les plateformes de streaming telles que Netflix était de plus en plus fréquente. Ce genre cinématographique, dont on peut situer la naissance avec le film La Haine paru en 1995...
Wow, c'est à moi que tu parles, mec, c'est à moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain.
A le vent en poupe. Et vous en avez certainement vu passer plus d'un ces dernières années.
Ce qui nous questionne alors, comment expliquer cette popularité? Y a-t-il des films de banlieue plus nombreux dans le cinéma français parce que des spectateurs en sont friands? Ou existe-t-il une quelconque volonté de revendication de la part des réalisateurs? Que produisent ces films sur la perception des banlieues et des thématiques aussi bouillantes d'actualité que celles des émeutes?
En bref, notre pari est celui-ci. Dans l'espace médiatique, il y a le cinéma qui fabrique une image et la diffuse. En étudiant le film de banlieue, on étudie un espace du champ médiatique. Qu'est-ce que cela nous dit du traitement médiatique par le cinéma de banlieue ?
C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Partie 1, mise à l'agenda politique. Nous écoutons Marcel et Iseux.
Pour mieux comprendre le rôle de ce cinéma de banlieue, rien de mieux que la science et une en particulier, la sociologie.
Et restez branchés, promis, ça va être intéressant.
Le concept que nous allons utiliser est celui de mise à l'agenda. Cette notion traite de la manière dont un problème initialement privé devient une question publique. En gros, c'est le processus par lequel va passer une cause pour défrayer la chronique, faire l'actualité, bref, qu'on en parle.
Là, tu penses à l'affaire Naël.
Exactement. Des problèmes en banlieue, il y en avait probablement avant et il y en aura sûrement après Naël. Au final, parler de mise à l'agenda des banlieues revient à mettre en lumière des espaces négligés, oubliés, dévalorisés et marginalisés.
Et ces personnes dont l'objectif est de mobiliser l'attention de l'opinion publique, on les appelle dans le jargon les claimsmakers.
En français, ce sont des entrepreneurs de cause.
Et dans le cas d'Athéna, Romain Gavras est censé symboliser cet entrepreneur de cause. Avec ses images, il pense briser un tabou autour de ces espaces marginalisés et des violences à l'œuvre. L'arène publique de réception de ce message cinématographique, vous l'aurez sûrement deviné...
Ce sont les réseaux sociaux. Le film crée la polémique, les gens ne sont pas d'accord entre eux ou avec le film. Bref, Gavras mobilise l'opinion publique.
Le réalisateur lui-même se pense comme un entrepreneur de cause. Dans une interview du 28 septembre 2022, il explique alors à Combini.
En fait, on voulait impliquer tous les gens qui habitaient dans la cité, en figuration. Donc tous les jeunes viennent de la cité ou des cités alentours. Et le quartier, pendant deux mois, a vécu, a vécu au rythme du film.
Le cinéaste endosse ici la responsabilité de dévoiler au grand public une réalité pouvant déranger. Il crée une image, selon lui, proche de la réalité, encourageant scientifiques et politiques à s'en emparer.
C'est permettre une sociologie visuelle. Cette sociologie donne à voir, à s'intéresser. Elle met en scène, dans un décor peu ou pas utilisé, des acteurs souvent peu ou pas représentés.
La référence dans la matière, c'est Malik Chiban, avec sa trilogie urbaine composée de Hexagone, 12 France et Voisins Voisines. Ces films, produits entre la fin des années 90 et le début des années 2000, ne sont pas simplement des œuvres cinématographiques, mais des instruments de mise à l'agenda. Ils révèlent la volonté politique et militante du réalisateur de donner une voix aux résidents des banlieues.
Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, mais le sociologue Vinay Swamy, dans son livre « Les écrans de l'intégration, l'immigration maghrébine dans le cinéma français ». Le cinéma peut être un support de témoignage et un appel à l'action politique.
Et Romain Gavras dans tout ça ?
Gavras, c'est, comment dire, différent. Le style de Gavras est important à comprendre. Lui qui se veut légitime d'aborder ces sujets par son parcours. Il a démarré comme réalisateur de clips de rap au sein du collectif Courtragemé avec le clip « Pour ceux » de la Mafia Qu'un Fri, véritable classique du rap français. Je les manne ou genre galouche, hardcore même quand ça galoche. Pour les tas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes.
Pour les toilettes, les pirates du bitume, j'en plus de chicots sur le côté, qui boitent pas la... C'est vrai, Gavras, rien ne le destinait à filmer la banlieue. Fils du réalisateur Costa Bravas et de la productrice Michèle Regravas. Il choisit de filmer la cité dont il aime l'exubérance des gens qui la peuplent. On comprend qu'il fantasme sur la nécessité créative qui habite ceux que l'on appelle déjà les banlieusards.
C'est une fiction qu'il donne à voir, un feu d'artifice de couleurs et d'action, bref, du divertissement. Le caractère haut en couleurs illustre l'époque. Cela ne fait pas vendre de montrer la dure réalité de la cité. Il faut en faire une pièce de théâtre pour qu'enfin Netflix s'y intéresse. Il choisit de filmer des émeutes, comme s'il savait, lui, qu'il suffit d'une bavure pour allumer la cité. Pourtant, il s'éloigne, il diffère de Chiban.
En effet, là où Chiban souhaite alerter les pouvoirs publics, dépeint dans un style réaliste des conditions qui ne lui semblent pas tolérables sur le sol de la République, Gavras choisit, lui, de montrer cette fausse réalité sous un style baroque, exagéré. Il reprend les clichés véhiculés sur les plateaux télé, s'en sert pour fasciner, dégoûter ou apeurer le téléspectateur. Son œuvre n'a pas pour but de mettre à l'agenda les problèmes sociopolitiques dans ces zones délaissées, mais bien de les rendre cinématographiques. Et il y a des similitudes avec La Haine, certes tout du long, mais un élément change radicalement. Contrairement au film de Kassovitz, on nous explique que ce sont des militants d'extrême droite qui ont au final tué le jeune frère. L'État et les fonctionnaires de police avaient raison. L'extrême droite a utilisé cet événement et les jeunes de la cité se sont fait avoir. Bref, la responsabilité est partagée et l'État est exempt de tout reproche.
Les prises de vue et les scènes sont un pur mélange d'action. L'engagement de Gavras, au final, il est quasiment inexistant. Il a raconté son histoire dans la banlieue, il s'est servi d'elle et de ses représentations pour créer un film, certes très divertissant, mais au final, si loin de la réalité qu'il aurait voulu capturer.
Les émeutes qui ont suivi la mort de Naël dans les différentes publications des réseaux sociaux trouvent un écho dans les images de saccage proposées par Gavras. Cependant, c'est bien par un policier que Naël a été tué.
Partie 2, la logique d'innovation. Nous écoutons Valentine et Benjad.
Bah avant tout, j'aimerais revenir une dernière fois sur les travaux de Swamy. En fait, parce que je pense que la manière qu'elle a de définir le cinéma de banlieue peut être intéressante pour la suite de notre discussion. En fait, juste pour faire court, le cinéma de banlieue se caractérise notamment par, je cite, une prépondérance des représentations sans détour, voire dure, de la culture des jeunes marginalisés.
Et tu penses que ça a une importance dans ce contexte ?
Très honnêtement, oui. En fait, mettre cette définition du cinéma de banlieue à côté d'un film comme Athéna, à la fois critiqué et encensé du fait de sa photographie et de sa réalisation axée sur le sensationnel, en fait, je trouve que ça permet de bien rendre compte de la façon dont on fait du cinéma de banlieue aujourd'hui.
Oui, mais bon, après, tu peux pas te baser seulement sur ce film. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ah, je me doute, hein. Mais c'est ça justement que je voulais pointer du doigt. C'est pas qu'Athéna. C'est Le Roi des Ombres, c'est Bronx... C'est d'autres films et séries directement produits par la plateforme ou juste distribués par elle et qui semblent toujours utiliser la banlieue, la cité pour justifier tout ce qui est scène d'action, gunfight, tout ça. Et tu vois, c'est pas que moi qui le dis ça justement. En fait, c'est la presse en parlant de ces films. Écoute, il y a surtout Courrier International qui parle d'Athéna et du fait que la dimension politique du film semble avoir été sous-exploitée, comme si elle était là juste pour servir de support à l'aspect visuel du film. Il y a une phrase qui me semblait importante dans cet article, je cite... Athéna ressemble plus à un jeu vidéo qu'à un endroit réel.
On est totalement à l'opposé des propos de Swamy Chiban, là, par contre, non ? Parce qu'en vrai, quand t'entends tout ça, tu te dis pas que le mieux, ça serait de se demander plutôt à cause de qui la banlieue au cinéma semble avoir à ce point changé ?
J'allais en venir, justement. T'en penses quoi, déjà ? T'as des idées ?
Bah, écoute, au vu de ce que Marcel et Iseu racontaient tout à l'heure, et de ce que t'étais en train d'expliquer, j'aurais rejeté la faute à la fois sur les plateformes de streaming et sur les réalisateurs, non ?
Bah, je pense que c'est un bon point de départ, ouais. Mais du coup, ça me fait penser. Il y a des films de banlieue comme ce que décrivait Shibane et Swami. Il y en a eu récemment, non? Mais juste, il me semble pas les avoir vus sur la plateforme, en tout cas sur des plateformes comme Netflix ou quoi, si?
Eh ben, tu fais bien d'en parler parce que justement, j'en ai un en tête.
Bolène, Mornas, Roquemort, Orange. C'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus que du chômage, il n'y a plus que du RSA.
Et si je te dis Retour à Bolène, réalisé par Saïd Amiche en 2018, ça te parle?
Pas vraiment.
T'inquiète pas, en réalité, c'est pas très étonnant. Bah allez, je te le résume si tu veux. Le film raconte la vie de Nassim, 30 ans, qui vit à Abu Dhabi avec sa fiancée américaine. Après 4 années d'absence, il revient avec elle à Bolène, donc dans le sud-est de la France, où il a grandi pour voir sa famille. Et dans ce film, pas de voiture calcinée, pas de trafic de drogue, ni de scène de violence policière. C'est justement le piège dans lequel le réalisateur voulait pas tomber en s'attaquant à la réalisation d'un film de banlieue. Alors, comme son personnage principal, il est d'origine marocaine et il a également émigré à Bolène. Donc, c'est avec une certaine légitimité déjà qu'il affirme dans une interview chez Radio France.
Et je trouvais que le cinéma français utilisait la banlieue de manière quasi systématique, comme si la banlieue était devenue du genre. La cité était du genre. Et moi, je voulais pas raconter ça. Je voulais raconter comment on vit, comment la cité vit en nous et pas comment on s'en sort ou comment elle peut être réceptacle à de la fiction.
Donc, il pointe du doigt ce qu'on évoquait tout à l'heure. Cette histoire de schéma type du film de banlieue axé sur le spectaculaire, sur la fiction plus que sur le réel en fait.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, l'erreur commise de façon récurrente dans cette représentation dont tu parles là, de la banlieue par les réalisateurs français, c'est exactement d'axer sur la fiction en omettant, comme tu l'as dit, donc la dimension de l'intime. Et c'est ça, sa plus-value un peu, c'est ce qu'il apporte. C'est sur ça qu'il s'est concentré dans Retour à Bolène, parce qu'il avait à cœur que le spectateur puisse saisir le conflit identitaire traversé par le personnage. Donc il fallait rattacher l'intime aux faits sociaux et aux faits politiques, qui sont la plupart du temps les seuls prismes sous lesquels on présente la banlieue.
Ok. En vrai, quand on entend ça, je me dis surtout que c'est vrai que c'est un parti pris singulier. Et ça semble en totale rupture avec ce qu'on dénonçait juste avant avec les films précédents. Il y a quand même des choses qui me chiffonnent, moi, dans tout ça. En fait, surtout déjà, cette façon de se représenter le réel, comme tu dis, elle résulte bien d'un parti pris subjectif, non? Je me dis que Saïd Amiche, il raconte de façon semi-biographique sa propre réalité de la banlieue, d'après ce que tu racontes. Mais est-ce qu'au fond, il n'existerait pas, du coup, plusieurs réalités? Et juste, outre ça, je me dis qu'il faut surtout pas oublier que certains réalisateurs, ils ont juste pas pour but de raconter le réel. Juste en étant fidèle aux faits historiques exacts et précis ou dans le cadre d'un film de banlieue avec une stricte réalité du terrain.
Oui, peut-être, mais faut s'intéresser justement à l'impact quand même de la réception de ces films. Quand on sait que les plateformes de streaming comme Netflix ciblent un public le plus large possible, faut bien comprendre que le cinéma de banlieue, à l'ère du streaming de banlieue, c'est souvent pour beaucoup l'une des seules façons, en fait, avec la télévision ou les réseaux sociaux, tu vois, mais d'imaginer ces lieux et de se forger sa propre conception de ce lieu. Donc le public qui les consomme va automatiquement se construire une image biaisée déjà d'une réalité sociale qui est pourtant bien réel. Donc ce fond négligé dans ces nouvelles productions laisse en fait une idée confuse de la banlieue comme celle d'un lieu excessivement violent, c'est-à-dire à la manière d'un Athéna.
Partie 3, le concept d'identification. Nous écoutons Marcel et Aloé.
Que ce soit la haine, Bac Nord ou Athéna, les réalisateurs ont tous choisi de faire jouer des habitants des cités dans lesquelles les films ont été tournés. Est-ce peut-être une volonté de renforcer la réalité? L'objectif a bel et bien l'air de ne pas trahir ce qu'est la banlieue. Avec la création d'une fiction, derrière les images des films dont nous avons parlé se cache un acteur, tout aussi important que les réalisateurs et les plateformes de diffusion, le public. Comment le public d'un film de banlieue reçoit-il l'image diffusée?
Effectivement, Marcel, les images diffusées par un film de banlieue peuvent rapidement faire polémique, en particulier sur les réseaux sociaux. Il faut tout d'abord se demander pourquoi les réseaux sociaux? Et à en croire Diana Owen, dans son étude publiée en 2006, Internet et politique, citoyens, votants et activistes, Internet a eu comme effet via les réseaux sociaux une hausse de l'intérêt pour les sujets politiques. On a permis de rendre les sujets politiques accessibles, dans le sens où il ne faut pas lire la presse ou regarder la télévision pour savoir ce qu'il se passe. Sur les réseaux sociaux, il y a le caractère de l'instantanéité, mais aussi celui de l'égalité. Je m'explique. Sur Twitter, chaque internaute peut lancer un débat ou réagir, supporter, dénoncer, bref, vous avez compris, cette hausse de l'intérêt politique fait que les films de banlieue provoquent nombre de réactions sur les réseaux sociaux.
À cela, on peut ajouter que les films de banlieue font appel au concept d'identité. en dénonçant la situation de vie de certaines personnes et en provoquant la réaction des spectateurs, on fait appel à ce que constitue l'identité sociologique de chacun, le lieu et les conditions de vie, et parfois aussi les injustices telles que les violences policières.
Tout à fait. D'ailleurs, en lisant une étude publiée en 2016 par deux chercheurs coréens, Sang-Hoon Lee et Yo-Han Kim, intitulée « L'expression de soi et les réseaux sociaux », on comprend tout d'abord que le soutien social perçu encourage l'esprit communautaire.
C'est-à-dire le sentiment d'appartenance à des groupes sociaux ayant des caractéristiques similaires. La réaction des spectateurs permet de constituer un groupe duquel les internautes vont se sentir membres en participant au débat numérique. Certains tweets nous permettent d'éclairer ce propos. C'est Athéna à Vitry. La France, c'est devenu Athéna.
À vrai dire, à l'image des émeutes de Naël et des réactions provoquées sur les réseaux, un camp se crée. Et l'usage des images devient militant. Vidéos de course-poursuites contre la police, de contrôles, de fouilles ou d'émeutes sont forcément déjà apparues dans votre feed, et d'autant plus récemment avec l'affaire Naël, dont l'origine est une vidéo postée sur les réseaux sociaux.
De la même façon, les médias sont omniprésents dans Athéna. Les médias classiques, d'abord, le film commence par une émeute déclenchée au commissariat, pendant une conférence de presse, mais surtout les réseaux sociaux numériques, représentés comme seul canal d'expression de ceux parqués dans la cité. Gavras développe un affrontement, un dualisme, entre les canaux classiques d'information et ce numérique auquel on a tous accès, les canaux du peuple, de la masse, que l'on ne peut pas croire non plus, mais sur lesquels on peut s'exprimer.
Sur les réseaux et sur BFM, ils disent que si ça se trouve, c'est pas les condés pour faire la bavure.
Défiance des médias d'information traditionnels, le traitement médiatique de la banlieue en est responsable. Bien souvent stéréotypé, dans l'imaginaire, ce sont des lieux de non-droit où règne la violence et l'erreur la loi. Les banlieues sont victimes d'un traitement par le champ journalistique qui ne correspond en rien à la réalité.
Et en abordant ces thèmes, les films de banlieue sont la cible de récupération politique. Si nous avons parlé des réactions des personnes sur Twitter liant les émeutes et le film Athéna, il y a aussi des personnalités qui s'expriment pour s'insurger face à la situation décrite par le film.
Effectivement, on peut notamment penser à certains habitants de banlieue pour qui Athéna, c'est, je cite, « la goutte de trop, la concentration d'un ramassis de clichés », comme le dit Inès Sediki, fondatrice de l'association Get Up. Elle dit également « quand un film est adulé par la critique et détesté par les gens qu'il dépeint, il faut se poser des questions. On préfère ne pas être représenté au cinéma que défiguré dans vos films ».
Dans cette optique, on se rapproche presque d'une mission civilisatrice, pour reprendre l'expression du sociologue Mathieu Rigouste, servant à une extrême droite qui nie les réalités de ces espaces. Éric Zemmour n'a évidemment pas hésité à s'emparer du sujet sur Twitter, en affirmant que, dans l'imaginaire de la gauche Netflix, les banlieues sont terrorisées par des skinheads déguisés en policiers. Athéna est une fable de propagande qui prêterait à rire si elle n'incitait pas à la violence contre ceux qui tentent de maintenir l'ordre avec de si faibles moyens.
Chaque fois qu'il tape, on tape. À chaque fois qu'il tue, on tue.
Pour récapituler, je vous dirais que les films de banlieue diffusent une image politique qui peut correspondre ou non à la réalité, la fantasmer ou non, mais une chose est sûre, ces images évoquent l'identité sociologique et provoquent des réactions sur les réseaux sociaux. À l'image d'une controverse, le film se déconfine et engage la récupération politique pour faire éclater des débats plus grands que celui d'un film sorti sur Netflix.
À notre grand regret, cet épisode touche à sa fin. Pour tout vous avouer, on n'a pas tellement envie de vous lâcher, alors pour la route, on vous fait un petit débrief. Cinéastes et réalisateurs s'activent pour mettre à l'agenda des espaces marginalisés et se transforment alors en véritables entrepreneurs de cause. C'est vrai qu'il s'agisse de Mathieu Kassovitz, Romain Gavras ou Malik Chiban, ils contribuent à l'éveil des consciences dans les salles et dans les arènes modernes de débat public, les réseaux sociaux. Mais n'allons pas trop vite en besogne, on s'est tout de même attaché à nuancer cette observation en évoquant la logique d'innovation. La sortie d'Athéna sur Netflix en est d'ailleurs un parfait exemple et montre une nouvelle approche de la production cinématographique. Attention, cela ne démontre pas nécessairement un désengagement ou un opportunisme de la part des réalisateurs, mais voyez-le comme une adaptation à nouvelles plateformes numériques, à l'économie particulière. Et le public dans tout ça ? Entre identification et récupération politique, le cœur des spectateurs balance. En réalité, des images comme celle-ci touchent directement à un affect en particulier, celui de l'identification. C'est alors qu'en accord ou non avec cette image, le côté militant en nous, spectateurs, peut s'éveiller et provoque nombre de débats et réactions sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être là tout l'objectif de ces films. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir suivis tout au long de cet épisode bonus. On espère avoir réussi à vous tenir en haleine et à alimenter votre réflexion sur ce thème qui nous a passionnés, celui du cinéma de banlieue. À très vite sur Révolution Numérique.